Pour moi, la famille, c'est l'engagement.
C'est un chaos plein d'amour.
C'est complexe.
Pour moi, la famille, ben, j'avais juste un mot à dire, c'est important.
Nous sommes ravis de vous présenter un nouvel épisode de Pour moi la famille, un balado qui donne la parole aux familles et aux futures familles de la communauté LGBTQ+, pour partager leurs histoires, leurs expériences et leur vision de l'amour et de la famille. Aujourd'hui, c'est moi, June.
Et moi, Mona.
Qui vont vous présenter deux autres familles qui vont nous parler un peu plus de comment qu'on crée nos familles comme personnes LGBTQ+. Dans le dernier épisode, on a rencontré Samator et Chris, qui ont créé leur famille par le biais de la GPA, et Ellie et Ariane, qui ont utilisé l'insémination maison. C'est quoi les deux autres méthodes qui nous restent à couvrir, Mona?
Aujourd'hui, c'est la procréation médicalement assistée et ou la PMA et l'adoption en banque mixte. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres manières de créer une famille LGBTQ+.
Comme quoi?
Un exemple, c'est deux personnes trans qui ont des capacités reproductives qui vont faire leur enfant par relation sexuelle. Mm-hmm. Un autre exemple, c'est des enfants qui étaient conçus avant le coming out ou bien avant transition. Mm-hmm. Un autre exemple, c'est famille d'accueil.
Ouais.
Et je pense à une quatrième, des amis qui décident de fonder une famille ensemble, mais des amis qui ne sont vraiment pas dans une relation conjugale.
Alors aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la PMA puis de l'adoption par la banque mixte. Et c'est en rencontrant Pierre et Mathieu, puis Mickey, puis Match. Ces sujets-là, vraiment, ils regorgent de nouveaux thèmes qui veulent pas dire grand-chose pour certains, mais qui veulent tout dire pour d'autres. Donc, pour bien commencer l'épisode, on va y aller avec une capsule vocabulaire. Donc, le premier terme qu'on va définir, c'est la PMA, la procréation médicalement assistée. Une petite définition simple, c'est lorsqu'on décide de fonder une famille en utilisant une clinique de fertilité. Mona, as-tu des exemples concrets?
Mais en fait, comme tous les exemples que j'ai en tête, ça tombe dans deux grandes catégories.
Okay.
Donc, il y a des personnes qui sont en clinique de fertilité simplement parce qu'il manque de sperme ou des ovules.
Mm-hmm.
Donc, c'est pas une question d'infertilité, c'est vraiment on a besoin d'un don de sperme ou un don d'ovule. L'exemple classique de ça, c'est une couple lesbienne qui vont aller en clinique et puis vont utiliser un don de sperme.
Mm-hmm.
Puis, le deuxième exemple, ou la deuxième grande catégorie, c'est les personnes qui vivent des problèmes d'infertilité, donc vraiment des problèmes physiologiques.
Mm-hmm.
La majorité des couples hétéros sont là à cause de ça.
Mm-hmm.
Mais l'infertilité, ça peut toucher aussi les personnes LGBTQ+.
Alors, c'est
sûr, on n'est pas à l'abri de ça.
Fait qu'une clinique de fertilité, c'est quoi? C'est un endroit où on vous aide, avec des moyens médicaux, à vivre une grossesse. Très simple.
Mm-hmm.
Mais est-ce que c'est gratuit au Québec?
Malheureusement, non. En fait, on a eu une certaine couverture en 2020.
Okay.
Avant, c'était payant. Il y avait une période où c'était complètement gratuite, puis c'était effacé. Puis là, on a d'autres choses. Donc, on a maintenant une couverture de 6 cycles d'insémination. Donc, ça, heureusement, ça inclut des paillettes de sperme, parce que ça, c'est la chose dispendieuse. On a aussi la couverture d'un cycle de fécondation in vitro. Donc, ça, c'est juste avec nos cartes d'assurance maladie.
Mm-hmm.
Et aussi, les personnes trans sont couvertes pour la conservation de sperme ou des ovules.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'est bien pas pour toute leur vie, mais pendant 5 ans.
Mm-hmm. Puis ça se fait aussi à la clinique de fertilité.
Exact.
On peut faire peut-être la différence entre clinique de fertilité puis banque de sperme.
Oui, bonne
idée.
C'est
pas la même chose.
Les gens sont toujours mêlés.
Ouais, je comprends. Premièrement, la majorité des cliniques de fertilité n'ont pas de banque de sperme. Mais font affaire avec des banques externes.
Exact.
La majorité, si je comprends, sont aux États-Unis.
Oui, mais il y a certaines au Canada aussi. Mais c'est ça, comme personne qui veut fonder une famille, on va aller en clinique de fertilité, mais c'est très rare ou presque jamais que les gens vont dans une banque de sperme.
Mm-hmm. C'est plus les cliniques qui font affaire avec des banques de sperme.
Mm-hmm.
OK. Tous les donneurs sont anonymes.
Oui.
Mais quand il y a un don de sperme, il y a la possibilité de dire qu'on peut être un donneur à identité ouverte ou non.
Exact.
Donc, quand la personne fait son don de sperme, peut écrire « Je veux être un donneur ouvert ». Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand l'enfant atteint la majorité, donc 18 ans, il y a la possibilité d'entrer en contact avec le donneur.
Exactement ça. Donc, ça peut être juste un échange de lettres ou de photos, ou ça peut mener vraiment à une vraie rencontre avec le donneur, si c'est souhaité des deux côtés.
Puis, par rapport au donneur, quel genre de profil qu'une banque donne? Qu'est-ce que ça donne comme profil?
Mais il y a des informations de base comme les couleurs des yeux, la couleur de peau, la grandeur, le poids, le niveau d'éducation, des choses comme ça. Mm-hmm. Il y a un peu une histoire médicale de la famille aussi, ce qu'on sait, parce que souvent il y a des trous dans l'histoire.
Bien sûr.
Mais ce qu'on connaît sur la famille. Donc, c'est des informations de base. Parfois, il y a plus, ça dépend de la banque de sperme. Parfois, on peut avoir même un enregistrement de la voix ou un petit paragraphe qui vient de donneur qui explique pourquoi il veut être donneur. On peut même, dans certaines banques, avoir des photos du donneur comme enfant ou même plus âgé. Donc, ça varie d'une banque à une autre.
Y a-t-il beaucoup de donneurs de sperme?
C'est touch and go. Au Canada, il n'y a pas énormément. Aux États-Unis, il y a un peu plus. Le problème arrive souvent avec des personnes BIPOC, donc Black, Indigenous, People of Color, personnes noires, autochtones de couleur. Mm-hmm. Parce que si on veut avoir un donneur qui a un peu le même background que nous, c'est souvent difficile de trouver ces donneurs en banque de sperme.
Et on a encore une fois un petit guide. On a beaucoup de guides sur le site de la Coalition. Celui-là, il s'appelle « Le guide sur les inséminations pour les futurs parents LGBTQ+ ». Donc ça, c'était les mots en lien avec la PMA. Maintenant, on va aller vers des mots plus en lien avec l'adoption par la banque mixte. La banque mixte, c'est quoi exactement?
C'est un programme des centres jeunesse. Donc, c'est quand les enfants dans leur famille d'origine sont signalés pour une raison ou une autre. Donc, ça peut être l'abandon, la négligence, l'abus, différents scénarios. Mais l'objectif est vraiment de trouver des foyers stables pour ces enfants-là. Et la raison qu'on utilise le terme « mixte » dans « banque mixte », c'est parce qu'au début, ces enfants sont placés comme famille d'accueil. Mais souvent, éventuellement, ils vont devenir adoptables. Donc, c'est ce mix entre comme accueil et adoption qui donne le nom au programme. Donc, ce que ça fait, ce programme-là, c'est que ça évite que ces enfants passent d'une famille à l'autre jusqu'à ce que l'adoption soit officiellement reconnue.
Donc, si je comprends bien, dans le programme de la banque mixte, il y a deux déroulements possibles.
Exact. En fait, le déroulement qui est vraiment souhaité par les parents de la banque mixte, c'est que l'adoption soit finalisée. Mm-hmm. Donc, les couples gays et lesbiennes qui entrent dans ce programme veulent adopter leur enfant. Et ça arrive quand le juge décide, OK, oui, je veux, on va couper les liens de filiation avec les parents biologiques, puis on va les donner aux parents banque mixte. Mm-hmm. Donc, ça, c'est un déroulement. L'autre, c'est ce qu'on appelle un placement à majorité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le juge dit non, on ne veut pas couper les liens de filiation avec la famille biologique, mais on veut quand même donner un foyer stable à l'enfant. Donc, l'enfant va rester avec les parents banque mixte jusqu'à la majorité. Donc, jusqu'à 18 ans. Après ça, l'enfant peut, comme adulte, l'enfant peut décider où il va. Mais avant ça, comme on sait que l'enfant va rester avec la famille banque mixte.
Pourquoi un juge ordonnerait un placement à majorité au lieu d'une adoption finalisée?
Mais en fait, comme au Québec, on fait la distinction entre comme adoption plénière, qui est comme une adoption où on passe la filiation d'un parent à un autre. Donc, en fait, on coupe la filiation avec les parents biologiques. Donc, ça, c'est adoption plénière. Mais dans d'autres pays, comme aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'adoption ouverte.
Okay.
Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut comme garder les liens légaux quand même avec les parents d'origine, même s'il y a eu une adoption. Ici, au Québec, c'est pas possible. Mais donc, parfois, les juges vont dire, mais on veut pas couper les liens de filiation. Ça vaut la peine quand même que l'enfant maintient cette relation avec le parent. Puis un exemple que je peux vous donner, c'est un parent qui a une déficience intellectuelle. C'est pas un parent qui a abusé un enfant, mais c'est un parent qui n'était pas capable de prendre soin de l'enfant. Mm-hmm. Donc, le juge peut décider, mais on veut quand même garder la filiation parce qu'il y a aussi les grands-parents et puis toute cette portion de la famille. Mm-hmm. Donc, on veut le garder. Donc, on va juste faire un placement à majorité pour un peu comme garder les liens entre les deux familles, donc la famille banque mixte et aussi la famille d'origine.
Mm-hmm, OK. C'est beaucoup de termes, c'est beaucoup d'affaires.
Oui,
merci
énormément.
Beaucoup de m'expliquer. Ouais, ouais.
Ça fait plaisir.
Puis je pense qu'on a un petit guide sur le site Internet.
Exact.
Oui, le petit guide de l'adoption directement.
Oui.
Mais avant d'aller lire le guide, je vous invite à écouter cette entrevue qu'on a faite avec Pierre et Mathieu. Donc, la première entrevue qu'on vous présente, c'est Pierre et Mathieu. C'est qui Pierre et Mathieu? C'est deux hommes cisgenres gays qui ont choisi de fonder leur famille en adoptant leurs enfants via la banque mixte. Donc leur premier enfant, Luna, est arrivée dans la famille lorsqu'elle avait 5 mois. Et quelques mois après, le couple a appris que la mère biologique de cette dernière était enceinte de nouveau. La famille a donc accueilli Ben à l'âge de seulement 3 jours. Mathieu et Pierre font partie d'une famille interraciale avec un papa québécois, un papa braillon coréen et 2 enfants nés à Montréal d'origine haïtienne. Maintenant, est-ce que tu te souviens où est-ce que tu les as rencontrés?
Mais je pense que je les ai rencontrés très au début de leur processus. Je connais Pierre plus que Mathieu. Pierre est très impliqué à la coalition. Il organise nos activités pour les familles avec enfants de 0 à 5 ans. Mm-hmm. Donc, on a des activités presque mensuellement à Montréal où les parents avec jeunes enfants se rencontrent, mm-hmm. Prennent un café ensemble, jasent ensemble, et puis les enfants peuvent faire des activités de bricolage, des puzzles, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment nice. Relax, mais très apprécié.
Adorable. On les a visités en août 2022. On est allé chez eux le matin, je me souviens, c'était pendant la semaine de Pride. On est arrivé, puis Mathieu était déjà parti avec les enfants, à les porter à la garderie. Puis on a commencé l'entrevue juste avec Pierre. On n'était pas certain que Mathieu allait se rejoindre à nous pour jaser, mais finalement, il est arrivé, puis il s'est joint à la conversation. Donc, sans plus attendre, allons faire connaissance avec Pierre et Mathieu. Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, merci, toi.
Ça va bien. Première question, c'est vraiment simple, c'est est-ce que tu peux te présenter en incluant ton prénom, tes pronoms, toute autre information que tu trouves pertinente?
Oui, mon nom est Pierre, j'utilise les pronoms « il », « lui ». Et j'habite à Montréal.
Awesome. Qui fait partie de ta famille?
Mon conjoint Mathieu et nos enfants Luna, qui a 3 ans et demi, et Ben, qui a 2 ans et demi.
Nice. Est-ce que tu as toujours voulu des enfants?
Oui. Oui, et je ne peux pas expliquer pourquoi. Je ne me souviens pas d'avoir eu un moment où je m'attendais juste toujours à ça. Et puis, je gardais des enfants quand j'étais petit. Puis, quand j'ai fait mon coming out à 16 ans, je me souviens d'avoir eu l'idée que, oh, éventuellement, ils vont trouver une façon pour que 2 hommes puissent avoir un enfant biologique. Mm-hmm. Et puis, je comptais un peu sur ça.
Optimiste.
Oui.
Comment tu dirais que ça a influencé ta dating life dans ta vie? Est-ce que tu dirais que dans la communauté gay, c'est des enjeux desquels on parle? Comment tu as navigué ça dans tes relations intimes?
Avant d'avoir rencontré Mathieu, j'ai eu peut-être 3 chums sérieux. Mm-hmm. Puis je me souviens que les 3, on avait eu des conversations. On était quand même assez jeunes, alors on ne parlait pas de ça très sérieusement, mais je pense qu'ils étaient ouverts à l'idée. Et puis je me souviens que quand j'ai rencontré Mathieu, je lui avais parlé de ça assez tôt. Lui est un petit peu plus jeune que moi, il a 5 ans de moins que moi. Alors il était peut-être un peu moins prêt, mais je lui avais dit « Ah, mais c'est pas pour tout de suite, mais éventuellement, j'aimerais ça. »
Et dans votre réflexion avec Mathieu, comment vous avez apporté, comment vous avez approché en fait le projet de parentalité, est-ce que ça a été quelque chose de stressant, quelque chose d'heureux, quelque chose de... C'est quoi les émotions que vous avez vécues là-dedans?
Beaucoup d'émotions différentes,
ouais, c'est
je pense. Pour moi, il y avait une question. J'ai commencé le processus quand j'avais 37 ans. Mm-hmm. Et je dis toujours que j'ai eu la vingtaine et la trentaine que je voulais. J'ai voyagé, j'ai fait des études, j'ai été dans des groupes de musique, j'ai fait toutes sortes de choses vraiment pour moi. Et je dirais que j'arrivais comme à un moment dans ma vie où je voulais passer à une autre étape. Et pour moi, ça impliquait de devenir parent. Et puis aussi, comme homme gay ou comme personne queer, je pense que notre chemin, des fois, ça peut nous prendre plus de temps à nous trouver, ou bien on a moins de modèles, ou bien on essaie des choses différentes. Alors... d'un côté, je me dis, c'est tard un peu pour avoir des enfants à mon âge. Puis d'un autre côté, je me dis, bien, je le fais vraiment parce que je veux le faire à ce moment-ci. Puis je me sens bien là-dedans.
Donc, à quoi peut s'attendre une famille, une future famille, en fait, qui décide d'adopter par la bande mixte? Donc, est-ce que tu as... disons qu'il y a un couple qui se lance dans l'aventure. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer les différentes étapes, en fait, qui vont arriver?
Mm-hmm. Alors, on commence en envoyant un formulaire très court, qui est simplement un formulaire pour dire « je suis intéressé par la banque mixte, ajoutez-moi à votre liste ». Ça, c'est le point de départ. Le formulaire prend, je ne sais pas, 20 minutes à remplir, c'est très rapide. Après, on nous contacte pour une session d'information. Et ça, c'est avec généralement une quarantaine d'autres personnes, peut-être une vingtaine de couples. Des fois, il y a des personnes seules. C'est majoritairement des couples. Et c'est là où on nous présente un peu les bases. Voici qu'est-ce que c'est la banque mixte. Voici qu'est-ce que ça implique. Voici des portraits des enfants. Voici un peu le cadre juridique, etc. C'est deux séances de 2 heures. Et dans notre cas, on a attendu 1 an et demi juste pour les séances d'information.
Wow.
Si après la séance d'information, puis les séances sont créées un peu pour faire peur aux gens.
Ouais.
Et je dis ça parce qu'ils veulent vraiment des gens qui sont engagés et qui savent un peu dans quoi ils s'embarquent. Parce que d'un côté, il y a plein de situations qui peuvent aller très bien, ça peut se passer bien, c'est simple. Et il y a d'autres situations qui peuvent être extrêmement complexes, très dures pour les gens, très dures émotivement, très dures pour des couples.
Mm-hmm.
Alors, ils ne veulent pas que les gens arrivent là juste avec de la bonne volonté et pas préparés, exactement. Alors, dans les sessions d'information, on voit qu'il y a des gens qui décident de ne pas continuer.
Mm-hmm.
Si on décide de continuer, là, on remplit un formulaire un peu plus approfondi et puis on attend pour une première évaluation psychosociale qui est assez courte encore, à peu près 1 heure, juste pour voir qui êtes-vous, êtes-vous sérieux par rapport à ce projet-là, quelles sont vos motivations, pourquoi, OK, c'est quoi votre situation de travail, familial.
Ça, c'est ce qu'on appelle la pré-évaluation.
Exactement, pense, c'est ça. Et puis, nous, ça nous a pris 1 an et demi après les rencontres d'information.
Est-ce qu'on vous a donné une explication pourquoi le laps de temps était aussi long, en fait?
Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, surtout à Montréal. Et ce qu'on s'est rendu compte dans les rencontres d'information, moi, je l'ai vraiment vu, c'est beaucoup des couples hétérosexuels dans la fin de la trentaine.
Oui, c'est plutôt comme pour les couples hétéros, comme un deuxième choix.
Exactement. Deuxième ou troisième. On s'est fait dire, en fait, que les couples de même sexe et surtout les couples d'hommes gays, souvent, ils sont plus prêts psychologiquement parce qu'ils ne font pas un deuil de fertilité en arrivant là. C'est leur premier choix, puis ils ont décidé d'aller là. Et puis moi, je me souviens d'avoir vu les autres gars gays dans la salle qui avaient l'air comme de bonne humeur, puis ils étaient contents d'être là. Puis il y a une partie de moi, par exemple, je suis comme « Oh, wow, je peux adopter des enfants! » Parce que moi, je suis né en 1977.
Ouais.
Alors, je ne suis pas si vieux que ça, mais en même temps, je me rappelle la période avant le mariage, la période avant les adoptions, etc. Mais là, tout s'est passé en sorte qu'on non seulement on a la permission d'adopter, mais on a moi j'ai des travailleurs sociaux qui m'ont dit moi on les aime beaucoup nos couples queer parce que ils sont prêts d'une autre façon et souvent ils ont fait un travail sur eux pour accueillir l'enfant que avec les couples hétérosexuels la démarche va être plus longue.
Si tu veux continuer, par contre, on avait fait que ça avait pris 1 an faire la séance d'information.
Oui.
Ensuite de ça, il y avait la pré-entrevue.
Oui.
Qui, je crois, est avec un travailleur social de la DPJ.
Oui, 2 travailleurs sociaux de la DPJ. Alors là, déjà, à notre première rencontre individuelle, on est rendu à 3 ans.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est long. Et puis, après, ça a été encore 1 an pour notre évaluation psychosociale en profondeur, ce qui implique en tout 6 rencontres. 2 rencontres avec les 2 personnes ensemble et chaque personne a 2 rencontres individuelles.
Mm-hmm.
Alors, en tout, c'est à peu près 18 heures d'évaluation, c'est 3 heures de rencontre.
Wow.
Pour tout voir, parler de notre enfance, notre famille, notre processus identitaire, notre emploi, nos cercles d'amis, ils veulent vraiment voir qui on est et puis être capable de dire bien, cette personne-là va avoir les outils pour être bien appuyée, chercher de l'aide, accueillir un enfant. Parce que déjà, d'avoir un enfant, c'est exigeant.
Mm-hmm.
Et aussi, banque mixte, c'est des enfants souvent qui ont des situations compliquées à la naissance ou même avant ou en bas âge. La plupart des enfants dans la banque mixte vont aller dans les familles d'accueil avant l'âge de 12 mois. généralement parce qu'il y a eu des signalements, parce que les parents biologiques sont connus de la DPJ et suivis. Alors, ça arrive, bien sûr, qu'il peut y avoir des enfants dans le projet Banque Mix qui ont 2 ans, 3 ans, mais c'est plus fréquent que ce soit des enfants moins de 12 mois. Alors, oui, comment les gens vont accueillir ça? Qui ils sont? Qu'est-ce qui les motive d'avoir un enfant? Comment ils gèrent le stress? Comment ils gèrent les défis, les échecs? Et je trouve que c'est bien de le faire. On dit souvent que pour se reproduire biologiquement, il n'y a pas ce genre d'évaluation-là. Les gens n'ont pas besoin de répondre à des questions ou faire face à une autorité de l'État. Mais on se rappelle que avant que les enfants nous soient confiés, qu'on devienne famille d'accueil, les enfants sont... les droits parentaux, souvent, sont tenus par la DPJ. Alors, ils veulent confier les enfants à un milieu qui va être capable d'en prendre soin et idéalement à long terme, parce que on sait que plus que 90% des enfants dans le programme Banque Mix vont finalement rester avec leur famille d'accueil, soit avec un placement à majorité ou bien avec une adoption. Mm-hmm. Alors, c'est ça. On a fait nos évaluations psychosociales en décembre 2018 et puis on a rencontré notre fille à la fin du mois de mars 2019. Alors, en tout, le processus a duré 4 ans et demi.
Est-ce que je peux te demander c'était quoi les moments les plus gratifiants du projet d'adoption de la Banque Mix?
Ben, je dirais que il y en a plein depuis que les enfants sont arrivés. On a été chanceux, nos enfants sont en bonne santé, ils vont bien, ils se développent bien. On a beaucoup de beaux moments avec eux. Ils ont 15 mois de différence, alors c'est du sport, ils sont tout petits.
Ouais.
C'est ça, Luna va avoir 4 ans en novembre et puis Ben a 2 ans et demi la semaine prochaine. Mm-hmm. Alors, ils sont proches en âge et pour le sommeil, pour juste les contraintes de qu'est-ce que c'est d'avoir des jeunes enfants, c'est certain que c'est un changement de vie assez extrême du jour au lendemain. Mais les moments gratifiants, c'est tous les jours, c'est de voir leur développement, c'est de voir la relation qui développe avec nous et puis entre eux. Alors nous, notre situation est particulière parce que nos enfants ont les deux mêmes parents biologiques. Mm-hmm. On a accueilli Luna et quelques mois après, pendant une des visites avec les travailleurs sociaux, la mère nous a annoncé qu'elle était enceinte. Alors ça, c'était pas prévu. Mm-hmm. On savait qu'on voulait avoir 2 enfants, mais on savait pas que ça viendrait aussi vite. Alors on a décidé d'accueillir son petit frère et pour que les enfants puissent rester ensemble. Et voilà, alors de voir qu'eux, ils s'entendent bien, qu'ils sont proches, qu'ils jouent ensemble, ils se chicanent, ils ont toute leur vie qu'ils sont en train de créer, ben c'est une gratification énorme. Oui. Mm-hmm.
Donc, Mathieu s'est joint à nous. J'avais une question pour vous deux, en fait, qui était comment vous êtes soutenu, comment vous êtes préparé au niveau plus d'accueillir un enfant. En fait, comment vous êtes préparé en tant que couple, les défis que vous avez eus puis les stress que vous avez eus par rapport à ça, en fait.
À la base, une des choses qu'on a faites, c'est de parler avec d'autres gens qui ont passé dans le processus de Banque Mix, là, juste pour nous permettre de mieux comprendre le processus puis être moins stressé avec les étapes qui s'en venaient. C'est sûr que par rapport au fait d'avoir des enfants tout court, on a la chance de chacun d'avoir des sœurs pour Pierre ou un frère pour moi qui ont eu des enfants avant nous. Alors, ça aide juste de regarder, voir comment ça se passe, apprendre par la bande comme ça, garder un peu les neveux, les nièces de temps en temps.
Est-ce que vous pouvez comme nous décrire un peu comment ça se passe quand vous avez rencontré Luna ou bien Ben pour la première fois?
Je me souviens, on a rencontré Luna, c'était à la fin du mois de mars, et puis on est allé la rencontrer. Elle était dans une famille de transition, et c'était une famille très sympathique, très joyeuse. C'était un couple plus âgé, et puis ils avaient 4 adolescents, et puis un petit chien, puis un perroquet, puis la maison était pleine de vie, puis on savait qu'on allait rencontrer cette petite fille-là, Luna, qui avait 4 mois et demi. Alors, on était vraiment fébrile, puis on savait pas trop à quoi s'attendre. Et puis, c'était super d'avoir la famille de transition. Et puis, ça arrive souvent dans les familles banque mixte qu'il il va avoir une période de transition du moment où l'enfant est retiré de la garde de ses parents biologiques avant d'être placé dans une famille banque mixte. Il y a souvent des familles comme ça. Et puis, oui, c'était bien. On était, je pense, encore sous le choc. Ça s'était passé assez rapidement. On avait eu le téléphone peut-être une semaine avant ou quelques jours avant. Et puis, je me souviens, mon cœur battait, puis Luna était là avec ses grands yeux, et puis elle commençait à peine à sourire, et puis elle était dans sa sauteuse, puis alors on l'a tenue, puis on était émus, puis ça c'était une première visite. Après ça, on en a eu une deuxième où on l'a ramenée chez nous pour quelques heures, un après-midi. Et puis après, ils nous ont dit, ben, si vous vous sentez à l'aise, elle va venir chez vous quelques jours après. Et puis, je me souviens, elle est arrivée chez nous, puis elle regardait partout. T'sais, ses yeux étaient grands, puis elle regardait à gauche, à droite. Puis quand elle s'est réveillée le matin après, je me souviens qu'elle souriait, puis qu'elle était déjà de bonne humeur. Puis je me disais, oh, ben, ça devrait bien se passer.
Wow! Donc, vous êtes une famille multiethnique. Comment est-ce que vous vous composez avec vos différentes cultures, vos différentes origines, fait que ces enfants sont adoptés? Est-ce que leur origine est importante pour vous?
Oui, c'est super important. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête, la composition de notre famille qui sort de l'ordinaire quand même. C'est par rapport à la culture des enfants, ben, c'est plus de lire des livres avec des images de personnes noires ou des images de personnes de plein de couleurs de peau, puis leur montrer qu'il y a des familles de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les compositions possibles, et puis de normaliser ça aussi. Puis il y a le côté linguistique qui est important pour nous.
Oui. Moi, j'ai travaillé en Haïti pendant à peu près 4 ans, et c'est là où j'ai appris le créole haïtien. Et quand on a su que les parents biologiques de Luna venaient d'Haïti, on a réfléchi par rapport à comment on pourrait garder une certaine continuité ou contact avec sa communauté d'origine. Et finalement, j'ai pris la décision que je leur parlerai toujours en créole. Qu'ils puissent au moins comprendre le créole, ça va créer la possibilité, s'ils veulent avoir un pont avec leur communauté d'origine. Alors, à la garderie, c'est en français. Avec Mathieu, c'est en français. Mais avec Papa Pierre, c'est en créole. Et puis, on fait un effort aussi pour maintenir des liens avec la communauté haïtienne à Montréal, pour qu'ils aient des contacts avec cette communauté-là. Et puis, par la suite, ils pourront décider est-ce que c'est quelque chose qui est important pour eux ou sinon, peut-être ils vont avoir des affinités pour d'autres communautés, d'autres langues, et c'est correct aussi.
Ma dernière question, ça va vraiment être simple. C'est, est-ce que vous avez des conseils pour les futures familles LGBTQ+, qui empruntent le parcours que vous avez emprunté, donc la banque mixte?
Un conseil qu'on donne souvent à des gens qui viennent nous voir puis qui posent des questions, on leur dit, ben, si vous y pensez le moindrement sérieusement, commencez les démarches tout de suite. Parce que ça peut être long. Ça peut être moins long aussi. T'sais, ça varie en fonction des années, en fonction du nombre de signalements. Ça change à chaque année. Ça n'engage pas à tant de choses que ça d'aller aux séances d'information puis de commencer quand même le processus. Sinon, ben d'essayer de parler avec d'autres familles, d'autres personnes qui font le processus banque mixte, là, pour nous, ça a été d'une très, très, très grande valeur, là, juste de gérer nos attentes, gérer notre stress, savoir qu'est-ce qui s'en vient, démystifier. Oui, les séances d'information de la DPJ, c'est une chose, mais de parler avec des gens qui le vivent de l'intérieur, c'est pas mal plus enrichissant.
Une chose que je recommande quand même, ça serait de garder une vision large du processus. Souvent, on est très concentré sur notre projet, notre enfant, notre couple, notre domicile, tout ça. L'adoption, ça existe dans un contexte politique, On sait qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont placés dans le programme de la Banque Mixte qui sont des personnes racisées. Ça n'existe pas à part de ces enjeux-là. Ça n'existe pas séparément de qu'est-ce qui se passe dans la société, des mouvements de revendication, de violences policières, de mouvements anticoloniaux. Tout ça, c'est là. Et pour beaucoup de parents, s'ils n'ont pas vécu proche de ces enjeux-là, s'ils avaient le privilège finalement de ne pas être proches de ces enjeux-là, s'ils ont des enfants qui vont les vivre, ils doivent être préparés proactivement. Ou à quel point on veut essayer de créer d'autres modèles de parenté, de société, de liens entre nous, quelles relations avec le pouvoir, avec les inégalités, puis finalement, qu'est-ce qu'on fait pour les prochaines générations, que ce soit nos enfants ou pas nos enfants. Je dis que nos enfants, oui, nous appartiennent, mais pas à 100%. Nos enfants appartiennent à d'autres gens, à la société québécoise, à la communauté haïtienne, à la planète, etc. Alors oui, nous, on est leurs parents, leurs guides, etc. Mais si on le fait, c'est pas de façon isolée derrière des murs fermés. Alors je pense d'être au courant de ces enjeux-là, ce qui est inconfortable et stressant et difficile, mais finalement, on se prépare pour quelque chose que les enfants vont vivre dans les années à venir.
Pour moi, la famille, c'est la somme de tous les petits moments qu'on passe ensemble, que ce soit faire des crêpes ensemble le dimanche matin, lire des livres ensemble avant de se coucher, se chicaner, se réconcilier et puis se dire qu'on s'aime.
Vraiment une belle entrevue.
Oui.
On a beaucoup appris. Pierre a vraiment été généreux.
Oui.
Je pense qu'il vient nous donner en une entrevue un A à Z sur comment procéder à travers la Banque Mixte. Donc, merci beaucoup, Pierre. Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette entrevue-là? C'est comment la DPJ trouve que les couples gays, donc d'hommes gays, sont plus prêts, en fait, pour accueillir des enfants de la Banque Mixte parce que pour eux, c'est leur première option.
Oui.
Les autres couples hétérosexuels, pour eux, c'est peut-être une troisième, quatrième option, la Banque Mixte. Mais pour les couples gays, ben, c'est la première.
Oui.
Qu'est-ce que tu as appris, toi, maintenant?
Mais moi, ce que j'ai vraiment aimé dans cette entrevue, c'était toute la discussion autour du fait que souvent, les enfants qui sont adoptés viennent de notre culture. Mm-hmm. Et c'est le cas avec la famille de Pierre et Mathieu. C'est vraiment multiculturel. Et j'ai adoré les explications de Pierre et puis la réflexion que Pierre et Mathieu avaient autour de ça. Pour moi, c'était inspirant.
Mm-hmm. Merci beaucoup à Pierre et Mathieu de nous avoir ouvert leur maison. On les a vus récemment à la cabane à sucre. C'était
oui,
un plaisir
oui.
de voir Luna, Ben et toute la petite famille.
Oui.
Puis merci énormément encore d'avoir été vulnérable avec nous. La deuxième famille aujourd'hui, c'est Mickey et Madge, qui ont créé leur famille par la procréation médicalement assistée. Donc, cette famille se décrit comme une célébration de la diversité, puis est composée à l'origine de Marie-Josée, qui est un parent queer racisé, et de Mickey, qui est un parent queer non-binaire. Il y a aussi leur bébé Soleil, qui avait 15 mois lors de l'entrevue.
Oui.
Puis on l'entend bien, le 15 mois.
Big time.
C'est Marie-Josée qui a porté leur enfant avec l'aide d'une clinique de fertilité et de la procréation médicalement assistée.
Mm-hmm.
Est-ce que tu te souviens, Mona, comment t'as rencontré Mickey et Madge?
Oui, Mickey faisait partie de notre groupe de discussion pour les parents et futurs parents trans et non-binaires. Et éventuellement, il est devenu membre de notre conseil d'administration pendant un an.
Nice. On les a rencontrés en octobre 2022 dans leur bâtiment bigénérationnel où est-ce que Mickey et Madge habitent au premier et que le grand-papa habite au deuxième. Pendant l'entrevue, c'était la maison complète. Donc, il y avait le grand-père, il y avait Soleil, il y avait Mickey, il y avait Madge. Donc, vous allez entendre beaucoup de bruit ambiant.
Oui.
Préparez-vous à rencontrer cette famille absolument adorable. Allons-y. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Mickey et Marie-Josée avec nous. On a aussi la chance d'avoir Soleil qui travaille très fort pour s'endormir dans les bras de Mickey. Parce qu'il y a des petits bruits, vous savez d'où est-ce que ça vient.
Oui.
J'ai déjà tuer le punch en disant vos prénoms. On a Mona aussi qui est là aujourd'hui.
Oui, bonjour.
Mais on connaît déjà vos prénoms, mais est-ce que vous pouvez vous présenter davantage un peu vos pronoms et toutes autres informations que vous avez envie de nous dire, en fait?
Oui, ben moi, c'est Marie-Josée. Alors, je suis... mon pronom... elle, pardon, j'avais en anglais dans ma tête. Et je suis la maman de Soleil et je suis en couple avec Mickey depuis 3 ans. On est mariés depuis 2 ans.
Bonjour, moi c'est Mickey. J'ai 43 ans, je pense. Il fallait que je pense, je réfléchis un peu, mais oui. Et mes pronoms, c'est IL ou il, elle, alternant. Et j'ai déménagé il y a... Ben, juste avant la pandémie, en fait. Mm-hmm. En février 2020, j'ai déménagé de Berlin en Allemagne, ici à Montréal, pour vivre avec Marie-Josée.
J'adore. Vous êtes rencontrés à Berlin?
On s'est rencontrés à Berlin en juillet 2019.
C'était la grande fierté, le 50e anniversaire de Stonewall.
Okay.
Oui, on rigole toujours parce qu'il y avait 1 million de personnes et une Canadienne.
Alors, oui, on est vraiment un Tinder match. Là.
Un Tinder match qui va nous apprendre aujourd'hui comment que ça fonctionne, la PMA.
Oui. Procréation médicalement assistée. Assisté.
Oui. Qui aurait cru que de Tinder à entrevue dans la cuisine pour parler de la PMA?
Ah, évidemment.
Oui, c'est ça. Puis ma question que je pose en premier, c'est toujours... Est-ce que vous avez toujours voulu des enfants? Puis ça, je vais vous le demander individuellement, mais aussi en couple. L'enfant est arrivé quand même vite dans votre vie. Je me demandais, toi, Marie-Josée, est-ce que tu as toujours voulu des enfants?
Oui, moi, j'ai toujours voulu avoir un ou des enfants. Ça, c'était pas clair, mais j'ai toujours voulu avoir un enfant.
Ouais.
Et nous, comme on s'est rencontrés assez rapidement, et... On a discuté des grands sujets, dont...
Très vite.
Ah, oui, très, très, très rapidement.
pendant le défilé à Berlin, c'était déjà en discussion.
C'était clair. On discutait de ça. Et moi, c'était clair que je voulais un enfant. Puis là, j'arrivais à 36 ans. Alors, je voulais vraiment qu'on y pense. Je voulais pas m'engager dans une relation dans laquelle quelqu'un était pas intéressé à avoir un enfant. Alors oui, vite, rapidement, on en a discuté. Et pour Mickey aussi, c'était clair, là, à ce niveau-là.
Puis toi, Mickey, est-ce que tu as toujours vu des enfants?
Je trouve que c'est vraiment une question intéressante parce que pendant des années, j'ai pensé que j'aurais jamais un enfant. Et il y a même une amie cis hétéra qui m'a dit « Ah, toi, tu m'as toujours dit que tu veux pas nécessairement un enfant et je t'ai jamais cru. » Mais en fait, c'était la vérité à l'époque parce que j'étais dans les relations avec des femmes lesbiennes ou bisexuelles et on avait... Ça arrive pas comme ça. Ça arrive pas sans un projet. J'ai trouvé un petit album que j'ai fait à l'école.
Ouais.
Il fallait peindre la famille, ce qu'on rêve d'avoir mm-hmm. comme adulte. Et là, oui, c'était comme une famille hétéro. Avec...
Oui, c'est ça. C'est ma question.
C'était une famille hétéro avec un cheval et des enfants et le chien. Et bon, c'est vrai.
Puis est-ce que vous avez l'impression que votre orientation sexuelle a influencé votre... pas votre désir d'avoir des enfants, mais votre conception que c'était possible.
Absolument. C'est pour ça que pendant des années, j'ai pas pensé d'avoir un enfant parce que j'ai justement, à l'époque, le mariage gay, c'était même pas légal où j'habitais.
Ouais.
C'était pas évident d'avoir des enfants. En fait, la première fois que j'ai rencontré un couple gay qui a des enfants, c'était au Canada. Il y a des années où je suis venue pour voir un ami à Toronto. Et j'étais comme, waouh, c'est possible! Je suis allée à Toronto aussi dans les librairies LGBT. Et c'était tout un nouveau monde pour moi.
Mm-hmm. Parce qu'en Allemagne, c'est difficile de fonder une famille. Hein? C'est pas facile comme l'accès à la parentalité. Vous n'avez pas accès aux cliniques de fertilité, à l'adoption, à la gestation pour autrui. C'est pas simple.
C'est même, je déteste de le dire, mais Soleil, en Allemagne, elle n'est pas considérée mon enfant mm-hmm. pour l'instant. Il faut encore faire des papiers.
On fait la démarche d'adoption.
Des démarches, c'est ça.
Comme vous avez dit rapidement, vous avez parlé de vouloir des enfants en couple. C'était quoi les différents choix qui étaient devant vous? Puis comment vous avez décidé, en fait, d'aller pour la PMA?
Ah, c'est l'accessibilité.
L'accessibilité.
C'est clair, là. C'était beaucoup plus facile, puis... rapide, là, pour nous.
Mm-hmm. Puis quand est-ce que vous avez commencé ce projet familial-là?
Dès que Mickey est déménagé à Montréal. Mickey est déménagé le 12 février 2020.
Et votre premier rendez-vous à la clinique était?
Au mois de mars.
Au mois de mars.
Oh my God!
Puis disons que les auditeurs, il y a une famille qui veulent aller par la PMA, par la procréation médicale assistée. Est-ce que vous voulez nous parler selon comment vous l'avez vécu? C'était quoi les premières étapes?
Ben, je me rappelle qu'on a passé des heures et des heures et des heures sur les sites des donneurs. Ça, c'était vraiment des nuits, en fait. L'autre côté, c'était la côté de trouver la clinique. Et le démarche à la clinique, moi, je voudrais la décrire, c'était comme entrer dans un frigidaire.
C'était très froid, là.
C'était très froid, très, très froid. Et c'était très différent de tous les travailleurs, travailleuses que j'ai rencontrés dans le système de santé à Montréal, ailleurs cette clinique de fertilité. Il y avait beaucoup de tests. Je me rappelle, il y avait plein de tests de laboratoire qu'on a fait.
Oui, on a fait beaucoup de tests. Et c'est, vu que c'était durant le temps de la COVID, alors quand j'allais, Mickey devait attendre dans le stationnement.
J'ai beaucoup de selfies que j'ai pris sur les stationnements. Là, je suis à l'extérieur de la clinique de fertilité. Et je me suis dit, un jour, je vais dire à Soleil. Et j'étais toujours là.
Toujours.
Je me permets de retourner dans le temps. Dans le fond, vous avez commencé par trouver la clinique.
Oui.
Vous êtes rentré et à ce moment-là, vous faites des tests de fertilité, j'imagine.
En fait, au début, c'est ça. Il y a des tests à faire et on rencontre des médecins, mais c'est jamais le même médecin. Alors, okay, c'est ouais. Très...
C'est pas très personnel.
Ah non, non, non. C'est très médical, c'est très, très froid. Alors, Et on avait choisi par nous-mêmes le donneur.
Comment vous avez réussi à choisir? Est-ce que vous avez accès à un catalogue?
C'est vraiment... c'est comme un catalogue en ligne, en fait. Là.
Ouais.
On doit payer pour avoir des banques. Okay. En fait, on aurait pu juste leur dire « OK, choisissez qui vous voulez. » Nous, on ne voulait pas ça. Mm-hmm. Ils nous l'avaient offert au début. Nous, on voulait vraiment choisir avec certains critères. Mm-hmm. Alors, on paye pour avoir accès à la banque. Et là, tout dépendant de ce que tu as payé, ben, tu as accès soit à une photo de la personne adulte, mm-hmm. Soit son... son dossier médical, ses antécédents, qu'est-ce que la personne fait dans la vie. Il y en a qui ont laissé des notes écrites, il y en a qui... C'est des audios, là, tu peux entendre la voix, t'entends l'interview. Alors, tout dépendant, là, alors on choisit comme ça, avec la disponibilité, parce que des fois, c'est là, mais il n'y a pas de disponibilité. La personne, l'homme n'a pas été faire son don, alors c'est un peu comme ça qu'on... Oui.
Donc, vous trouvez le donneur que vous voulez, vous achetez le sperme, les échantillons, et vous les faites venir à la clinique, qui ensuite commence
les inséminations.
Les inséminations.
Mais en fait, maintenant, c'est différent parce que vous autres, c'était dans le temps que vous avez dû payer pour les échantillons. Maintenant, il y a 6 qui sont couverts, mais on peut seulement les acheter une à la fois parce que le gouvernement ne veut pas payer pour 6 si ça marche après 3 essais. Donc, en fait, le processus est un peu différent maintenant.
Mais on ne sait pas, hein, dans le sens où quand nous, on a commencé, on a acheté un échantillon. Et ensuite de ça, ça n'a pas fonctionné. Alors, on a réessayé avec d'autres 2 fois. Et finalement, on a réessayé avec le premier et ça a fonctionné. Okay. Là. Alors, parce qu'on n'était pas... on n'a pas été conseillé, on doit en acheter 3. Alors, on a fait un peu comme nous, on pensait.
Vous n'avez pas été guidé nécessairement.
Non.
Quand même, je suis très heureuse de ce changement ici au Québec parce que ça va être beaucoup plus accessible pour les familles qui veulent se créer. Alors, on était contente d'entendre ces nouvelles.
Oui, 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 c'est une bonne nouvelle parce que ça peut être... Mais vous autres, vous êtes tombées enceintes facilement, mais oui. Pour d'autres familles, ça peut prendre plus de temps et puis il y a des coûts.
Mm-hmm. Mm. Justement, toi, Mona, qui travaille dans ce milieu depuis tellement longtemps, j'ai l'impression, de mon regard de personne qui n'a pas de famille, que, que la PMA spécifiquement, les lois changent un peu aux 6 mois.
Ah oui, mais pas aux 6 mois, mais ça a changé à travers les années. Avant, au début, c'était pas du tout couvert.
Ouais.
Puis la couverture du gouvernement a augmenté à travers les années jusqu'à entre 2010 et 2015 où c'était complètement gratuit. Mur à mur, tous les traitements.
Jusqu'à 2015?
2015, oui. Puis après ça, c'était aboli. Donc, on a dû couvrir tout. Puis là, récemment, on a pu comme négocier pour avoir un peu de couverture. Donc, 6 cycles d'insémination, 1 cycle de fécondation in vitro. Donc, c'est pas si mal.
Mm-hmm. Puis c'est quelque chose c'est triste de dire ça, à quel point la création de nos familles est comme dépendante des lois, dépendante de qu'est-ce qui est mis en place.
Et puis des questions financières aussi, ça c'est difficile, le fait qu'on doit penser à l'argent.
Est-ce que ça te rappelle des souvenirs, Mona?
Oui, oui. Elle est super mignonne, mais je suis très contente que j'ai 2 enfants dans leur vingtaine.
On sent beaucoup de difficultés au niveau de la, comme tu as dit, la chaleur et d'avoir eu le besoin d'aller chercher à l'extérieur. Comment vous êtes supportée là-dedans?
On avait vraiment besoin de s'entourer bien pendant ce processus. Moi, j'ai un psychologue, il y a des amis, il y avait la coalition LGBT où on a rencontré d'autres couples en train d'essayer le même projet, etc.
Ça manquait de chaleur, ça manquait d'accompagnement, mais le travail a été fait. Ça, on n'a rien à dire là-dessus. Mais c'est ça. Pour nous, on est allé chercher d'autres familles ou des gens qui étaient passés par là. Ça, c'était très, très, très important là, de s'entourer.
C'est quoi pour vous, à la fois, les moments les plus difficiles, mais aussi les plus gratifiants du projet? Donc, c'était quoi? On a parlé un peu de comment Mickey, à cause de la COVID, ne pouvait pas rentrer lors des inséminations, de tout ça. Donc, c'était quoi pour vous les moments qui étaient plus difficiles lors du projet?
Ça, c'était très difficile. Que Mickey ne puisse pas être là à tous les moments, si ce n'est que lors de l'insémination, c'est rien, là. C'est rien comme démarche au niveau émotif j'aurais aimé ça, que Mickey soit là. Ça, c'était un peu plus difficile. Et gratifiant, je pense que c'est un travail d'équipe. Hein. On doit se tenir en tant que couple, en tant que relation, en tant que humains qui veulent un enfant ensemble. Alors, ça rapproche, ça renforce les liens. On a un projet commun et on travaille tous les deux dans le sens, dans le sens où on va y arriver. Là, oui.
Aussi, je dois dire, on était très, très bien accompagnés à l'hôpital général Jewish à Montréal, parce que ils nous ont vraiment, depuis le début, ils nous ont traités comme tout le monde, avec un très, très professionnel, très aimable, très, très gentil, très professionnel. C'était jamais un moment de discrimination, de stigmatisation, de othering. Et ça aussi, ça m'a impressionnée.
Dans le fond, vous faites le processus d'insémination, puis quand ça fonctionne, est-ce que vous avez des suivis après avec la clinique de fertilité?
Nous, on est
allé. Ça arrête complètement.
Nous, on est allé directement au Jewish.
Okay.
Directement. J'ai fait mon suivi de grossesse là.
Puis ça a été agréable comme expérience.
Oui, ça, c'était autre chose. On est dans autre chose. J'avais un médecin extraordinaire. Alors, non, ça, on est ailleurs là. La douceur, la chaleur. Non, on est ailleurs.
Ma prochaine question pour vous, c'est comment souhaiteriez-vous que le gouvernement soutienne les familles qui empruntent le chemin de la procréation médicale assistée?
C'est l'accessibilité. Hein. C'est toujours une question de sous, une question d'accessibilité. En ce moment, il y a des listes d'attente. J'ai des amis qui sont sur des listes d'attente. Puis quand tu veux un enfant, tu ne veux pas être sur une liste d'attente. Hein. Tu veux au moins commencer la démarche parce que tu ne sais pas combien de temps ça prend. Tu sais quand ça commence, mais tu ne sais pas quand est-ce que ça va fonctionner.
Mm-hmm.
Alors, c'est toujours la même chose. L'accessibilité, la question financière, toujours les mêmes sujets.
Ouais.
Oui, définitivement.
Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre famille?
Bon, moi, je suis fière de... Quand je vois ma femme, quand je vois le bébé, je suis fière de vous deux. et je suis fière que, en fait, rien n'est parfait dans notre famille. On fait beaucoup de mess-up, mais on re-essaie. On s'aime, c'est ça, c'est la base pour nous. Et on a des problèmes, on trouve des solutions. Et il y a le commitment. C'est ça. Mais... C'est des mess-up et on se réveille et on recommence et d'une autre manière.
Oui, définitivement. Je pense que c'est ça. Et au quotidien, là, on est une famille tout à fait ordinaire comme les autres. Hein. Alors, je pense que c'est ça. J'ai des copines qui m'ont posé des questions, comment ça fonctionne chez... Ça fonctionne pareil comme chez toi. C'est la même chose, on a les mêmes problèmes avec les poubelles, puis on a les mêmes discussions, puis c'est exactement la même chose.
Mm-hmm. Il y a Soleil qui s'endort tranquillement.
Effectivement.
C'est très mignon. Est-ce que vous avez des conseils pour les futures familles LGBT?
Je dirais, il ne faut pas lâcher. Il faut de la persévérance, puis il faut un travail d'équipe et de s'entourer. Il faut vraiment, vraiment s'entourer parce que seul, j'aurais trouvé ça plus difficile, effectivement.
Oui, et la famille choisie, c'est vraiment très important à voir, surtout parce qu'une fois que tu as un bébé, tu rentres dans les lieux où... tu es peut-être une minorité. Ça commence à la garderie. C'est pas évident qu'il y a d'autres familles LGBTQ+ dans cette garderie. Nous, on était chanceuses, mais vraiment parce qu'on est, on fait partie de la coalition LGBT, parce qu'on était dans une rencontre et là, il y avait une autre maman qui a dit « Hey, est-ce que je te connais? Je pense que je t'ai vu déjà. » Et j'ai dit « Ah oui, où? » À la garderie, j'ai dit, on était tellement happy, tellement heureuse que notre enfant n'est pas le seul enfant d'une famille, de la diversité et aussi l'échange avec les autres, l'autre couple. En fait, c'est un couple lesbienne qu'on a connu aussi, qu'on est devenus des amis. Ça aide vraiment de partager des expériences qui sont peut-être des fois, oui, on est des familles comme les autres, mais il y a certaines moments ou certaines
spécificités,
oui,
nos réalités.
C'est ça. Et je veux juste pas parce que moi, je suis normalement 80% avec d'autres gens queer et trans. Et juste parce que j'ai un bébé, je ne veux pas être juste maintenant avec des cis straight hétéros. C'est pour ça que je trouve qu'il faut bien s'entourer, être ouvert, patiente et bien sûr d'être aussi consciente que la famille, ça change tout. Rien n'est comme avant.
Ça, c'est vrai.
Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous et d'avoir expliqué pour tous les auditeurs comment ça fonctionne. La procréation médicale assistée. Parce que moi, j'ai beaucoup appris. Mais merci beaucoup. Puis c'est sur ça que, justement, Soleil s'endort tranquillement. Mm-hmm. On va remercier Soleil aussi pour toute l'ambiance de bruit qu'elle nous a offert pendant.
Le bruiteur, oui.
Bruiteur professionnel.
Merci beaucoup, Henri-June. Merci beaucoup, Mona. Et on espère vraiment que les autres familles qui veulent faire ce démarche, on vous souhaite bonne chance. Familie bedeutet für mich Liebe mit Commitment.
Deux épisodes, quatre méthodes pour créer nos familles.
Yes!
Il y a tellement de vocabulaire et de choses qu'on a appris dans les deux derniers épisodes. Merci énormément à Samata, Christophe, Pierre, Mathieu, Elisabeth, Ariane, Mickey et Madge pour nous avoir ouvert les portes de leur maison pour nous apprendre, en fait, vraiment toutes les spécificités que chaque modèle ou chaque méthode pour créer nos familles prennent. Si tu te permets de rêver un peu, Mona, avec les avancées de la médecine, est-ce que tu peux penser à des méthodes qui vont exister dans 25 ans pour créer nos familles?
Mais je ne sais pas si c'est un souhait ou non, mais comme quand j'essaie d'imaginer dans le futur, comme je sais qu'une chose que j'ai souvent eu cette question à travers les années, c'est est-ce que c'est possible de fusionner deux ovules pour faire un bébé? Mmh. Donc, cette idée de, comme, de que deux femmes lesbiennes peuvent être toutes les deux parents biologiques sans avoir besoin d'avoir un donneur de sperme.
Okay.
Donc, peut-être un jour, qui sait. Et puis, l'autre souhait, comme quand je pense à tout ça, c'est peut-être à un moment, les femmes trans vont avoir la possibilité d'avoir des greffes d'utérus.
C'est vrai,
et puis de vie, des grossesses. Donc, qui sait?
Qui sait qu'est-ce que l'avenir nous réserve?
Oui.
Dans le prochain épisode, les structures familiales. Trois différentes entrevues et trois différentes façons de faire famille. Ce balado est une production de la Coalition des familles LGBT+. Animation, réalisation et montage par Henry June Pilote. Co-animation par Lani Trilène et Mona Greenbaum. Musique par Nkoussi. Ce balado doit avant tout sa magie et son authenticité à l'accueil chaleureux et sincère des 34 familles et futures familles que nous avons rencontrées. Merci énormément.